Donc juste pour conclure, et ce titre est un peu pompeux, j'ai pas l'ambition de créer moi-même un nouveau dialogue entre neurosciences et psychologie clinique, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même si ça semble être dépassé, toujours dans, et j'y réfléchissais en termes de formation des étudiants aussi, ou de détermination de soi, qu'est-ce que je suis? On est toujours dans cette dichotomie fondamentale, il me semble, en tout cas dans les addictions, entre la neurologie, qui est en neuropsychologie, entre la neurologie qui va prendre en charge les maladie neurologique classique et la psychiatrie qui va prendre en charge les maladies psychiatriques. Je sais bien que la neuropsychiatrie existe, je sais bien qu'il y a des liens, mais moi, quand je pense à mon université, il y a les étudiants qui font la neuropsy qui vont aller vers ces populations-là, et les étudiants qui font la psychologie clinique qui vont aller vers ces populations-là. Et sortir de peut-être spécifiquement belge, et on pourra en discuter, mais sortir de cette dichotomie, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et il me semble que les addictions sont dans cette opposition constante entre les apports des neurosciences. Et je reviens au débat que j'avais illustré au départ, les apports des neurosciences et les apports de la psychologie clinique, avec deux mondes qui finalement sont séparés par un mur, encore une illustration par un article récent. Et les tentatives de faire ces liens, elles existent historiquement, je veux dire qu'elles existent depuis plus d'un siècle, mais on est encore ici, et notamment avec le boost des neurosciences, dans cette opposition constante entre les aspects de neurosciences et les aspects de psychologie clinique. Et donc la proposition centrale, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, c'est de revenir à ce dialogue et d'utiliser pour ça la neuropsychologie intégrative qui peut être un lien entre les neurosciences et la psychologie clinique, à partir du moment où on part pas, où on garde cet équilibre, et je pense que c'est un équilibre qui est complexe à maintenir. Mais donc notamment pour faire la transition entre les modèles de neurosciences fondamentales et les comportements effectifs des patients. Et donc, c'est ce que j'ai voulu illustrer avec les quatre axes que je vous ai présentés, c'est-à-dire la neuropsychologie intégrative pour déterminer les corrélats comportementaux. Qu'est-ce qui, dans les prédictions des modèles de neurosciences, est en effet vérifiable dans les comportements des patients? J'ai parlé du biais attentionnel, mais on pourrait parler très longuement des aspects cognitifs. En quoi ou comment les déficits frontaux au niveau anatomique ou fonctionnel se transforment en des déficits de prise de décision, en déficits exécutifs réels. Quels autres systèmes sont impliqués? Et je pense qu'il y a une urgence de réfléchir à où mettre la cognition sociale dans ces modèles, puisqu'elle l'ignore complètement, alors même que la cognition sociale est impliquée de manière massive dans la clinique. Et un souci important des psychologues cliniciens sur le terrain. Quelles interactions entre les systèmes, interactions entre les systèmes plus cognitifs et de cognition sociale, le dialogue doit vraiment se faire. Et il se fait depuis 20 ans ou 30 ans en psychologie expérimentale ou dans les approches de neurosciences classiques, mais dans la neuroscience des addictions, les interactions entre ces systèmes cérébraux sont encore, à mon sens, très peu explorées. Et puis, peut-être de manière plus innovante, quel lien avec le corps? Est-ce qu'on n'oublie pas complètement les traitements, l'input sensoriel qui est massif dans les addictions et singulièrement dans l'addiction à l'alcool, parce qu'on prend une substance qui va évidemment influencer le fonctionnement cérébral, mais qui va se diffuser dans l'ensemble de notre corps et avoir des influences massives. Évidemment, il y a encore un énorme travail d'intégration à mener et je serai mort avant d'y être arrivé, mais en tout cas, j'espère avoir suscité chez vous peut-être un élargissement de la perspective sur les neurosciences des addictions. Et pour terminer par un point clinique, si on réfléchit à quoi maintenant les neurosciences servent dans les cliniciens en addictologie, alors peut-être que quand on fait exception avec l'inclusion massive de la neuropsychologie et les liens entre la recherche et la clinique, mais globalement, si on interroge le clinicien lambda en addictologie, à quoi servent les neurosciences dans son quotidien? Je pense qu'il va vous répondre quelque chose comme ça, quelle que soit sa langue, à peu près à rien du tout, parce qu'il y a encore ce mur entre les neurosciences et la psychologie clinique. Et mon espoir, c'est que la neuropsychologie intégrative pourrait permettre de faire ce lien entre les neurosciences et la psychologie clinique, notamment via, et on essaye de s'y employer avec Anne-Lise en partie, vers la transition des acquis des neurosciences et notamment de la remédiation cognitive, des interventions de neuropsychologie vers cette psychologie clinique. Mais c'est un travail complexe parce que ces mondes sont encore largement séparés. J'en ai terminé. Je remercie l'ensemble des docs dont j'ai présenté les études, les anciens docs, et puis toute l'équipe du labo qui travaille sur le binge drinking et qui a été dont j'ai pas parlé ici. Mais si des personnes sont intéressées par les études sur le binge drinking, je suis à leur disposition. Et je vous remercie pour votre patience. Il est 11h54. Merci.
Il y a une grosse étude qui a reçu encore un petit peu de joie.
Oh, moi, je suis plein d'énergie.
Du coup, je vous remercie merci pour cette présentation. Je peux absolument s'assurer que vous avez une bonne idée ou une envie de travailler en collaboration. Et j'avais une question sur le plan méthodologique où, sur la dernière présentation, c'était le rappel mnésique pour permettre aux personnes d'identifier donc de très vite. Est-ce que c'était suffisant ou pas? Parce que j'ai constaté qu'il y avait des patients, le rappel mnésique, ça permettait rien du tout. Alors que si, par exemple, ils sont devant un pardon, lié à l'alcool, là, il est beaucoup plus capable de décrire toutes les sensations corporelles, alors que la personne, il se beaucoup de mal à les décrire.
Oui, je pense. Donc, j'ai encore rappelé la question. Oui, donc, la question, c'est sur la difficulté du rappel mnésique, notamment pour le craving. Moi, ce n'est pas moi qui ai fait passer les études, donc il faudrait certainement demander à Pauline et aux gens de Caen qui ont fait passer les études. Mais j'ai l'impression que là, il y avait peu de patients qui disaient, moi, je ne ressens rien ou je ne me remémore rien. Évidemment, dans un monde idéal, je pense que la meilleure manière pour mesurer les corrélats cérébraux, les corrélats corporels du craving, c'est de mettre les personnes dans une situation de craving. Alors pour les patients, soit on a une sorte d'éthique et on attend qu'ils aient du craving, mais en sevrage, c'est compliqué. Ou alors on leur fait une méthode d'exposition, comme on a pu faire pour les binge drinkers, mais alors on risque d'aller en prison, on perd son statut
Alors,
de
là,
médecin.
notre définition, quand on fait de la
Tout
désensibilisation,
à fait
on est
d'accord.
obligé de trouver.
C'est ce que j'ai proposé au, ce qu'on avait proposé au docteur Cabé de faire de l'exposition finalement, parce que c'est une approche classique, mais il a refusé pour des raisons qui m'échappent pour le moment. Non, c'est pas vrai. Non, mais. Ouais.
Non, pas faire, pas boire.
Oh, si, un petit peu boire. Allez, les binge drinks.
Non, les billes, c'est senti.
Non, après, ils boivent. Ça, c'est une idée de Pauline. Non, bien sûr. Non. Ouais. Je pense qu'on peut tout à fait, non, ça, plus sérieusement, je pense qu'on peut tout à fait imaginer ça, c'est-à-dire faire, c'est une partie de la thérapie par exposition, on pourrait faire ces mesures à ce moment-là. Ce n'était pas en vigueur dans le service à ce moment-là, mais je pense qu'on a ici pour cette étude un biais de rappel mnésique. Mais en tous les cas, je n'ai pas les résultats individuels, mais on voit que c'est certainement il y a un biais mnésique et c'est des sensations qui sont amoindries, mais ils sont capables, et c'est quand même de rappeler ce qui, et c'est relativement cohérent. Après. Oui, tout à fait, bien sûr.
Non, c'était en réalité, c'était une discussion qu'on avait par mail lors de la préparation de la présentation où je m'interrogeais sur le fait de proposer de la neuropsychologie intégrative et de me dire, mais finalement, quand vous dites neuropsychologie intégrative, ça va être neuropsycho, puisque c'est central, c'est pas la psychologie intégrative. Et donc, avec l'idée, vous avez peut-être échangé dans la salle sur le fonctionnement. Sur le fait que non, la relation psychologique n'était pas peut-être dans le monde, c'était une sorte de complémentarité à travailler ensemble.
Moi, enfin, juste pour ouvrir le débat, moi j'avais pensé à psychologie intégrative, mais j'ai l'impression que ça fait un gloubi-boulga. Moi, je vais pas nier mon identité de, je vais pas nier mon identité de neuropsychologue. Je veux dire, on utilise des techniques de neurosciences. Je pense qu'il y a un dialogue qui est possible, mais je pense qu'on va partir de quelque part et que, alors peut-être que certains défendront une psychologie intégrative. Moi, je pense que je suis d'abord et avant tout un neuropsychologue à la base. Donc, j'allais pas nier ça, mais je comprends que ça puisse susciter des débats et que ça me conduise à oublier des variables qui sont très importantes, ça, très clairement.
Question. Moi j'en avais une, Pierre. Quand tu dis que tu t'ouvres au corps, entre guillemets, alors tout cas que tu vas.
On va se calmer.
C'est marrant parce que moi aussi j'ai l'impression de m'ouvrir au corps, mais pas du tout de la même manière que toi. C'est-à-dire que moi je vais m'intéresser au poids, au cerveau, et je trouve que dans ton ouverture au corps, tu restes très psycho-code en fait, tu vois. Et je trouve que c'est très complémentaire. Parce que, justement, quand moi je regarde la fibrose hépatique ou les maladies cardiovasculaires, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu fais. Mais je me demandais si ton avis là-dessus, et dans quelle mesure tu trouvais que c'était intégré. En fait, est-ce que tu intègres vraiment le corps ou tu intègres, c'est toujours le cerveau, mais qui. Tu vois ce que je veux dire?
Bien,
C'est pas
tout à
très
fait.
clair, mais je t'en de.
Non, si, tout à fait. Je pense que ce qu'on fait jusqu'ici, c'est pas intégrer le, t'as raison, c'est pas intégrer le corps, c'est intégrer les sensations corporelles en ce qu'elles influencent les processus cérébraux ou les processus neuropsychologiques. Donc, je reste dans une approche qui est celle-là. Après, je viens d'une unif où il y a un groupe qui travaille sur le gut-brain axis, sur les aspects hépatiques. Donc, ça, bah, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais où je ne connais rien. Ma compétence, et la compétence, je pense, développée par Pauline aussi, c'est une compétence de. neuropsychologues ou de neuroscientistes qui s'intéressent à l'input corporel. C'est l'interface, c'est les sensations corporelles en ce qu'elles influencent la psychologie, la neuropsychologie ou le fonctionnement cérébral. Après, d'évidence, il y a certainement des choses à faire sur l'intégration entre les aspects, moi je pense surtout au gut, parce que c'est, mais aux aspects hépatiques évidemment, où il y a une large. Mais si on réfléchit, là, je pense que c'est un travail, ce que vous faites, c'est un travail aussi pionnier qui ne me semble pas tant développé que ça, le lien entre les aspects cérébraux et les aspects hépatiques. Moi, quand je vais dans les congrès d'addictologie, peut-être que je ne vais pas dans les bons, mais on a encore X sessions consacrées au cerveau et Y sessions consacrées au foie. Et le dialogue, je pense qu'il y a une grande voie là-dessus. Mais c'est différent de la voie que j'emprunte, c'est certain. Non, mais c'est tout à fait raison.
J'ai pas mal de questions entre deux. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pierre est là encore 3 semaines.
Oh oui.
Depuis. Donc, vous aurez l'occasion de solliciter, mais on a encore en semaine tous deux si besoin.
Oui, évidemment, je suis là pour 3 semaines et j'ai que ça à faire. Donc, vraiment, si vous avez des remarques déjà sur ce que je fais, qui viennent d'ailleurs, ou si vous avez des volontés de collaboration ou de critique sur ce qu'on est en train de faire, moi, je prends tout. Et j'ai évidemment que ça à faire parce que je comptais aller à la plage, mais il pleut à peu près constamment dans votre pays tout pourri. Donc, voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je suis à moitié du temps à Cicéron, à moitié du temps à la fac, mais je suis ravi d'avoir vos retours critiques sur ce qu'on fait. Ou de transmettre des tâches ou de tout ce qui a été présenté, évidemment disponible. Avec grand plaisir.
On va peut-être faire une remarque, mais c'est une question, c'est une remarque plutôt. Mais j'ai été complètement soufflé par en fait, les toutes premières diapos, et en particulier de voir arriver dans ce domaine-là, parce que je n'ai pas du tout connaissance de ça, la théorie des systèmes duo. Moi, au départ, j'ai fait ma thèse sur la raisonnement logique. Donc, les travaux de Kahneman, les dual process, le système 1 et le système 2, c'est quelque chose que je connais depuis des années. C'est fou, en fait, l'impact de ce modèle-là, du fonctionnement, en fait, cognitif, de la pensée en lui-même, et puis là, je vois même une cérémonie, voilà, pénétrer sur ce domaine.
Après, moi, j'ai un biais parce que c'est vrai qu'on se base beaucoup sur cette approche de dual process. J'ai peut-être surinterprété son influence. Je pense quand même que si on relit, et j'ai relu pas mal de papiers de neurosciences avec grand plaisir, il parle rarement, les neuroscientifiques vont rarement parler de système 1, système 2 ou d'avoir une approche cognitive. Mais globalement, si on regarde même les modèles les plus récents, c'est toujours cette opposition, elle est quand même centrale entre quelque chose de contrôlé et quelque chose d'impulsif.